Sons d'Europe, Catherine Roland.
How often I thought about that day. The vote was over 30 months ago.
Bonjour à tous, nous vous parlions du Brexit Party de Nigel Farage la semaine dernière, qui caracole en tête des sondages à 10 jours des élections européennes. Les europhiles britanniques, eux, aimeraient faire du scrutin du 23 mai une sorte de référendum informel sur le Brexit. Mais ils abordent ces européennes en ordre dispersé. Ainsi, le Parti libéral-démocrate n'obtient que 12% des intentions de vote devant les Verts, 10%, et Change UK. La campagne est donc difficile. C'est le reportage de Marie Bio.
Dans le quartier résidentiel de Ravenscourt Park, à l'ouest de Londres, les rues sont bordées de maisons colorées avec des petits jardins à l'avant. Ici, on a voté à 70% pour rester dans l'UE en 2016. Alors, en faisant du porte-à-porte, Irina von Weiss, candidate pour le Parti libéral-démocrate, centriste et pro-européen, est plutôt enthousiaste.
C'est mon chat, il vient faire du porte-à-porte avec moi. Parfois, il entre dans la maison quand quelqu'un ouvre la porte. Tout le monde n'est pas content de cette intrusion, mais j'en profite pour leur parler plus longtemps pendant qu'ils cherchent mon chat.
Un coup de chance qu'Irina n'ait pas été avec son petit compagnon quand elle tape à la porte d'une habitation où vit un Jack Russell mécontent d'être dérangé. Irina ne se décourage pas. Il faut dire que les libéraux-démocrates ont eu d'assez bons sondages récemment. Ils ont gagné 5 points et atteignent les 12% d'intention de vote selon la dernière étude Opinium. Les Lib Dems sont troisièmes derrière le Brexit Party et les travaillistes, mais devant les conservateurs et tous les autres partis europhiles.
Depuis qu'on a eu de bons résultats aux élections locales du début de mois, on est vu très différemment. Les électeurs nous respectent plus et les autres partis nous attaquent, ce qui est toujours bon signe en politique. À travers tout le pays, nous sommes maintenant le parti pro-européen le plus fort.
Irina est revenue devant la station de métro de Ravenscourt Park pour distribuer des tracts. Difficile de ne pas la remarquer avec ses énormes boucles d'oreilles au bleu très européen, surmontées par une étoile jaune tout aussi européenne, son foulard et son sac jaune, couleur cette fois des libéraux-démocrates. Les centristes ne font pas dans la nuance, dans le titre de leur programme non plus, « Bollocks to Brexit ».
C'est très bien. Fantastique.
Vous le traduisez comment en français ?
Oh, c'est terrible.
On traduira donc ça en version polie par « zut au Brexit » ou alors « aux chiottes le Brexit ». Florian est le coordinateur des libéraux-démocrates pour Hammersmith. Il est français, mais lui non plus ne trouve pas de traduction.
Je ne saurais pas trouver de traduction pour « bollocks to Brexit ». Non, « aux chiottes le Brexit », ce n'est pas plus mal finalement, bien s'en débarrasser. Mais non, je pense que le slogan est génial, il est sans équivoque. Il dit tout. C'est intelligent parce que c'est le slogan qu'on a entendu dans les manifestations récemment. Les stickers orange fluo qui sont partout dans Londres. C'est très intéressant. Je pense qu'ils ont fait un bon coup de com' parce que depuis hier, tout le monde en parle.
Ça a effectivement l'air de marcher. Irina est en pleine conversation avec un électeur pro-européen qui ne savait pas trop pour qui voter.
Leur message est convaincant, surtout quand on entend celui des autres partis qui ne suscite pas l'enthousiasme. Irina m'a convaincu que voter libéral-démocrate était le meilleur moyen d'obtenir un second référendum et d'arrêter le Brexit.
Car voilà le dilemme des europhiles dans ces élections au Royaume-Uni. Nous retrouvons au nord de Londres, dans le quartier branché, voire alternatif de Camden Town, une autre candidate. Elle se présente avec l'étiquette de Change UK, The Independent Group, un nouveau parti créé il y a quelques mois par des députés déçus de leur parti conservateurs et travaillistes. Parti tout neuf donc, qui reste à moins de 5% dans les sondages et qui peine à se faire connaître.
C'est la première fois que j'entends parler d'eux, mais ça me plaît beaucoup, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui parle au nom de tous ceux qui veulent rester dans l'Union européenne. Je vais me renseigner un peu plus avant de faire mon choix, mais pourquoi pas.
Le vote pro-européen est divisé entre les partis établis, les Lib Dems et les Verts, sans compter les nationalistes du SNP en Écosse ou du Plaid Cymru au Pays de Galles, et le petit nouveau Change UK. Mais face au succès du tout neuf, là aussi Brexit Party, dans l'autre camp, au marketing percutant, Change UK a du mal. Il a un nom en rallonge. Son logo a été changé par la commission électorale en noir et blanc, beaucoup moins attirant pour l'œil que le bleu ciel du Brexit Party. Il a changé aussi sa dénomination sur Twitter plusieurs fois et il est dur à trouver en ligne.
J'ai dû jongler avec plusieurs liens. C'était pas facile. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les candidats non plus. Je crois qu'ils ont été pris de court.
Alors pourquoi les partis europhiles n'unissent-ils pas leurs forces pour faire face au Brexit Party qui recueille 34% dans les sondages, autant donc presque que tous les autres partis anti-Brexit réunis? Il y a eu une tentative qui a échoué, dit Carole Tong, ex-eurodéputée travailliste, aujourd'hui candidate pour Change UK à Londres.
Change UK est un nouveau parti qui vient se former et qui vient de recevoir la permission d'être une partie il y a seulement un mois. Alors, on n'avait vraiment pas le temps de trouver un accord avec les autres partis, mais on va compter tous les votes qui sont pour les partis qui veulent rester dans l'Union européenne. Et j'espère qu'on va pouvoir dire qu'ensemble, nos votes montrent qu'on veut un people's vote.
Cela ne rassure pas certains électeurs, même s'ils pourraient être tentés par un parti tout neuf. La dispersion des votes anti-Brexit pourrait très bien faire les affaires du Brexit Party.
Je regarderai au dernier moment qui est en meilleure position pour gagner et pour s'assurer que nous restions en Europe. Je voterai pour n'importe qui tant qu'ils arrêtent cette folie.
Et cette dame n'est pas la seule à vouloir voter utile. Plusieurs sites ont été créés pour aider les pro-Europe à déterminer quel parti est le mieux placé dans leur région et donc pour qui il est le plus judicieux de voter.
En Hongrie, les europhiles ont également bien du mal à se faire entendre face à une violente propagande anti-européenne menée par le pouvoir. Depuis 4 ans, Viktor Orban ne cesse d'attaquer Bruxelles et notamment sa politique migratoire. Il y a quelques jours, pourtant, une fête de l'Europe était organisée à Budapest. Florence Labruyère y était.
Place de la Liberté à Budapest, la fête de l'Europe bat son plein avec des concerts et des jeux. Noémie et sa fille sont en train de répondre à un quiz sur les institutions européennes. Il y a des cadeaux à la clé pour les gagnants.
Là, il y a cette question. Combien de députés siègent au Parlement européen? J'aide ma fille à répondre parce qu'elle n'a que 11 ans. Elle ne sait rien sur l'Union européenne.
Cette journée festive est organisée par la Commission et le Parlement européen. Gabor Zubkov est le représentant de la Commission européenne à Budapest.
On fête l'esprit de l'Europe, cette identité européenne qu'on partage tous. Et on célèbre un anniversaire car cela fait 15 ans que la Hongrie est membre de l'Union européenne. Et puis cette journée a aussi pour but de mobiliser les Hongrois, de les inciter à aller voter.
Pas facile de promouvoir l'Europe quand le gouvernement de Viktor Orban passe son temps à la dénigrer. Exemple, le quotidien pro-gouvernemental Madjar Nemzet a récemment fait sa une avec ce titre « La Commission européenne attaque les mesures gouvernementales d'aide aux familles ». Gabor Zubkov, délégué de la Commission européenne, réagit avec beaucoup de diplomatie.
Non, ce n'est pas vrai, mais il doit s'agir d'un malentendu. La Commission n'a même pas évalué ces mesures qui sont d'ailleurs, je le souligne, tout à fait positives.
Un démenti qui ne pèse pas lourd face à la machine de propagande du gouvernement hongrois, selon Bernadette Seel, députée indépendante d'opposition.
La Commission européenne ne peut pas vraiment se défendre face au gouvernement qui contrôle près de 80% des médias et qui répète sans arrêt les mêmes mensonges. C'est un empire de fake news.
Pourtant, en dépit de cette propagande, l'Union européenne reste très populaire en Hongrie, estime Gergely Salát, professeur à l'université.
La communication du gouvernement est efficace, mais je ne pense pas que ça affaiblisse la confiance dans l'Europe. Vous savez, tout le monde a un frère ou une sœur qui travaille dans un autre pays. Et cette expérience personnelle est bien plus forte que la propagande.
Malgré les rodomontades de Viktor Orban, près de 80% des Hongrois se sentent citoyens européens. Ils restent très attachés à l'Europe.
À 10 jours des élections européennes, la formation du président Macron, La République En Marche et ses alliés du Modem sont toujours à la peine dans les sondages. Il ne recueillerait que 22% des voix et pourrait même se voir devancé par le parti de Marine Le Pen. Moins d'un quart des voix pour un parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Le score est particulièrement médiocre au regard des performances dans les autres pays de l'Union. Alors, on va voir pourquoi avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Pourquoi cette désaffection des électeurs pour En Marche ?
Il est vrai que pour Emmanuel Macron, arrivé spectaculairement au pouvoir il y a 2 ans, après avoir atomisé la structure droite-gauche du système politique français, il y a de quoi être déçu. Et cela d'autant plus que le nouveau président a fait de la relance de l'idée européenne la pierre angulaire de son projet politique. Pourtant, sans entrer dans l'analyse de tous les facteurs à l'origine de ce manque de soutien, force est de constater que la légitimité électorale des gouvernants français repose sur des bases singulièrement étroites.
Et c'est donc une exception en Europe.
Oui, si l'on regarde dans chaque pays les scores aux élections générales dues ou plus souvent des partis au pouvoir. Des élections qui partout, sauf en France, ne comportent qu'un tour de scrutin. Si l'on prend les pays qui nous entourent, on constate que la coalition allemande CDU-SPD a reçu le soutien de 53% des électeurs en 2017. La coalition italienne 5 étoiles Ligue a quant à elle été soutenue par 51% des électeurs en 2018. Même score pour la coalition belge réunie en 2014. Au Royaume-Uni, où le système est, rappelons-le, majoritaire, conservateurs et unionistes irlandais ont recueilli quand même 43% en 2017. Quant à l'Espagne, difficile d'en parler, puisque le socialiste Pedro Sanchez, dont le parti a recueilli 29% des voix en avril, n'a pas encore formé son gouvernement. Donc dans 12 pays de l'Union, les coalitions au pouvoir ont reçu le soutien d'une majorité absolue d'électeurs. Dans 9 autres pays, dont les Pays-Bas et 5 pays de l'Est, le soutien au pouvoir est de l'ordre de 42-45%.
Et quels sont les gouvernements les moins représentatifs ?
Dans 4 pays, les partis au pouvoir n'ont réuni que 30 à 40% des électeurs, soit parce que les modes de scrutin comportent une correction majoritaire, comme en Lituanie, en Pologne ou en Grèce, soit qu'il s'agisse d'une coalition minoritaire, comme en Suède. En Finlande, les sociaux-démocrates qui tentent actuellement de former un gouvernement risquent aussi de se retrouver en coalition minoritaire. Reste donc la France, où le vrai noyau électoral du parti au pouvoir n'est constitué que des électeurs du premier tour du président élu. Car tous les suffrages qui se sont reportés sur lui au second tour sont le fait d'électeurs dont les partis ne seront pas représentés au gouvernement.
Le score prévu pour LREM est donc presque naturel. Alors
c'est vrai, réaliser 22% pour un score initial de 24% n'est qu'un léger recul. Reste que le système français est censé cristalliser au travers l'action du président l'émergence d'un courant d'opinion majoritaire. Et là, on en est très loin.
Daniel, quels sont les gouvernements qui verront leurs candidats dominer lors de ces européennes ?
11 gouvernements s'en tirent bien puisque les partis composant les coalitions recueillent globalement plus de 40% des suffrages aux élections européennes. Dans 6 d'entre eux, en Italie, en Autriche, en Hongrie, en Irlande, au Luxembourg et à Malte, ces partis sont même crédités de plus de 50%. Dans 11 autres États membres, on constate une baisse du soutien pour les formations au pouvoir, en particulier aux Pays-Bas, en République tchèque, en Roumanie ou en Slovénie, pays où le recul par rapport aux élections générales dépasse 10 points. Enfin, dans 2 pays, on peut parler d'effondrement pour le ou les partis au pouvoir. Il s'agit de la Grèce, où les intentions de vote pour Syriza, le parti d'Alexis Tsipras, et son allié souverainiste Anel chutent de 39 à 27%. Et puis, au Royaume-Uni, la crise du Brexit et l'aberration d'un scrutin européen organisé dans un pays qui veut quitter l'UE engendre l'effondrement du parti conservateur qui dévisse de 42 à 11%.
Un score donc encore plus mauvais que celui du parti macronien.
Oui, mais dans des circonstances absolument inédites. De fait, la République En Marche et ses 22% constituent la seule formation pro-gouvernementale de ces élections en France. Un si faible soutien et un tel manque de représentativité dès son accession au pouvoir permet de comprendre le procès en manque de légitimité fait au gouvernement par le mouvement des Gilets jaunes.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Au lendemain d'une rétrospective de l'œuvre cinématographique de Jelimir Jilnik au Centre Beaubourg à Paris, Philippe Bertinchamp a pu rencontrer à Novi Sad, ce cinéaste serbe méconnu en France. Réalisateur depuis plus de 50 ans pourtant, Jelimir Jilnik a tourné ses premiers films à la fin des années 60. Il est devenu ainsi l'un des principaux cinéastes de la nouvelle vague yougoslave, la Black Wave. Dans ses 60 films, il dénonce sans relâche l'exploitation de la pauvreté pendant les périodes du communisme, des guerres d'ex-Yougoslavie, et puis la redéfinition des frontières ainsi que les problématiques actuelles de migration.
Jelimir Jilnik, c'est l'histoire d'un enfant né en 1942 en Serbie dans un camp de concentration nazi où ses parents, résistants communistes, ont été fusillés. Un orphelin recueilli par ses grands-parents et très tôt initié à la vie théâtrale de l'après-guerre par son oncle, l'un des fondateurs du prestigieux théâtre dramatique yougoslave de Belgrade.
Je dirais que c'était une très bonne période. On parle du début des années 50 et à cause du conflit entre l'Union soviétique et la Yougoslavie, notre politique culturelle s'est largement ouverte à ce moment-là.
1948, le maréchal Tito, à la tête de la Yougoslavie, rompt avec Staline. Le pays est gouverné par des intellectuels marxistes, très critiques envers Moscou. Biberonné aux films d'avant-garde américains et européens largement diffusés dans les cinémathèques yougoslaves, Jelimir Jilnik, diplôme de droit en poche et caméra au poing, se lance dans le cinéma. En 1968, il réalise un court documentaire sur des enfants roms, Pionieri Maleni, les petits pionniers.
Ces enfants, pour la plupart, sont des sans-abri. Ils se soucient plus de trouver un endroit où dormir la nuit et de dénicher quelque chose à manger. Je leur ai parlé et je leur ai dit que cela m'intéressait de faire un film qui serait leur destinée.
Sa méthode se résume en un mot. Écoutez, les protagonistes sont associés à la conception du film. Ici, les textes sont écrits par les enfants à partir de leur propre expérience, qui contredit la doctrine égalitaire du socialisme. Vite qualifié de provocateur et d'anarchiste, il réaffirme publiquement son leitmotiv. Parler de la réalité, pas de ses promesses. Mais bientôt, une chape de néo-stalinisme s'écrase sur la culture. Les films de Dusan Makaveyev ou d'Alexander Petrovitch, les grands maîtres du nouveau cinéma yougoslave, labellisés par la nomenclatura Black Wave ou Vague Noire, ne sont plus distribués en salle.
Nous étions le seul pays socialiste où les artistes n'étaient pas employés par les studios. On était tous freelance. Et ce qui se passait parfois, c'est qu'on arrivait avec un projet en 72-73 et ils nous disaient « Vous êtes sur la liste des artistes qui ont commis des erreurs idéologiques. » Alors, c'était fini pour nous.
Exclu du parti, Jelimir Jilnik part en Allemagne de l'Ouest. Son cinéma y est acclamé. Quelques années plus tôt, en 1969, son premier long-métrage, « Travaux précoces », a reçu l'Ours d'or à Berlin. Le jeune cinéaste communiste, dont les parents ont été exécutés pendant la guerre, se pose toutefois des questions.
Je me demandais vraiment comment les 800 000 travailleurs migrants yougoslaves faisaient pour s'en sortir, à cause de toutes ces contradictions. Au moins un tiers d'entre eux s'était engagé dans la lutte antifasciste contre les Allemands. Et maintenant, ils travaillaient là-bas. Je me disais que c'était très intriguant d'un point de vue psychologique. J'ai réalisé 7 documentaires sur ces Gastarbeiters.
L'exil sera de courte durée. Son regard critique sur la RFA lui vaut la censure et le contraint à rentrer en Yougoslavie. Pendant 13 ans, il travaille à la télévision. Cette fois, il jouit d'une grande liberté et se consacre au genre qu'il préfère, le documentaire et le docu-fiction.
Faire des films documentaires est un moyen qui permet de donner l'espace à des personnages hors champ, à qui on ne donne pas la parole. Ils disent comment ils voient la société où ils vivent. Ces gens sont très libres dans leur prise de parole parce qu'ils n'ont pas beaucoup à perdre.
Début des années 90, la guerre éclate. Jelimir Jilnik claque la porte de la télé, passe à la vidéo, puis au numérique. Dans cet océan de violence et de frustration, il imagine Tito de retour parmi les Serbes, un film événement où les gens de Belgrade se confrontent à leur passé. Dans la foulée, il tourne une tragicomédie trash, Marble Ass, le premier film serbe à mettre en scène des acteurs-actrices transgenres, avec, comme toujours, le même fil rouge.
Oui. C'est l'histoire de quelqu'un qui, comme chacun d'entre nous, se pose la seule vraie question, quand va-t-il mourir et quitter cette planète ?
Chômeurs, SDF, immigrés, femmes exploitées, homosexuels, travestis, jeunes vétérans de guerre, les populations marginalisées sont les héros. En 2018, Jelimir Jilnik a posé sa caméra en Autriche pour tourner Le plus beau pays du monde, un docu-fiction avec des réfugiés afghans.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde aujourd'hui et vous pouvez nous suivre évidemment sur rfi.fr ou nous retrouver sur les réseaux sociaux.